Quand on évoque le journaliste de la Révolution, on parle de lui, Camille Desmoulins. De la Picardie à l'échafaud, il aura connu plusieurs vies. Il fut tour à tour en enfant turbulent, dans une famille nombreuse, en élève brillant dans le prestigieux collège parisien Louis le Grand, en avocat médiocre sans client, puis un journaliste engagé à la plume acérée, un mari amoureux, un parlementaire notoire, et enfin, une icône déchue. Camille Desmoulins, c'est tout cela à la fois, en 34 ans de vie seulement. En vous détaillant le récit de sa vie, je vais aussi vous raconter une certaine histoire de la Révolution française. Nous sommes le 2 mars 1760 à Guise, en Artois. Amiens est à 100 km à l'ouest. Le maire de la ville de 3000 âmes est heureux. Et pour cause, il est père. Sa femme vient d'accoucher d'un garçon. Il se nomme Lucie Simplice Camille Benoît. Enfin, tout le monde l'appelle déjà Camille. Le foyer est bourgeois, mais ne fait pas partie pour autant des hautes sphères de la société. La renommée du patriarche, Jean-Benoît Nicolas, a du mal à s'étendre au-delà du bailliage de Guise. Il en est le lieutenant général, en sorte de sous-préfet avant l'heure. De toute manière, lui n'en veut pas de cette renommée. Camille Desmoulins est donc l'aîné d'une fratrie qui comptera au final 8 enfants, dont 5 atteindront l'âge adulte. Turbulent, le jeune Camille est aussi le favori de son père. Il faut dire qu'il est le plus intelligent et qu'il bénéficie d'une mémoire prodigieuse. D'ailleurs, il n'arrive pas à tisser d'atomes crochus avec ses frères et sœurs. Il reste assez distant d'eux, les jugeant un peu trop simplés à son goût. De toute façon, il les quitte dès ses 11 ans pour rejoindre la capitale à 150 km au sud-ouest. À Paris, Camille a été accepté au prestigieux collège Louis le Grand. Nous sommes en 1771. Il y bénéficie d'une bourse pour payer l'onéreuse scolarité. La touche-t-il dès son entrée ou 4 ans plus tard, les débats sont encore en cours. Sur place, il n'est pas le plus populaire. Depuis son enfance, il traîne comme un boulet en bégaiement. Chaque hésitation dans son discours se traduit par les « on » qui font sourire. Il se fait quand même des amis, qu'il gardera même à la sortie de l'école. Surtout, il est fasciné par un certain Maximilien de Robespierre, de 2 ans son aîné. Il noue de bonnes relations avec lui et s'amuse à lui donner la réplique. À Louis le Grand, il est aussi subjugué par autre chose, l'Antiquité. Plus particulièrement, Rome et Athènes. Cicéron l'inspire, tout comme son livre de chevet, Les Révolutions Romaines, de René Aubert de Vertot. C'est au collège, en lisant ses multiples livres, que Camille Desmoulins fonde ses convictions républicaines. Il regrette que les parlements alors en place dans le royaume de France ne puissent pas contester plus que cela, le roi et ses ministres. En 1781, il obtient sa maîtrise en art, puis commence le droit. Il obtient le baccalauréat 3 ans plus tard, puis sa licence de droit le 3 mars 1785. À 25 ans, Camille devient avocat, enfin, essaie de l'être. Il prête serment au Parlement de Paris, mais n'arrive pas à se faire une clientèle. Son bégaiement est un obstacle non négligeable pour les plaidoiries orales. Mais surtout, il n'a pas de relation, ni de protecteur. Et face à lui, une grosse concurrence. Ils sont 600 avocats pour Paris seulement. Les rares affaires qu'il traite lui sont transmises par des confrères qui ont trop de travail. Il vit mal la situation. Très mal. Au point qu'il hésite entre sa carrière d'avocat et une autre d'auteur. Il est passionné par la littérature et tous ses proches lui rappellent la qualité de sa plume. Mais il ne franchit pas le pas. C'est justement la qualité de cette plume qui convainc un célèbre avocat, Guy Jean-Baptiste Targé. Il lui fait confiance et l'engage comme secrétaire. Camille peut enfin se nourrir, se vêtir convenablement. Il peut aussi payer son hôtel, lui qui n'a toujours pas de logement personnel. Mais l'affaire ne dure qu'un temps. Camille a du mal avec l'ego de son supérieur, ne s'entend pas avec lui et finit par cesser leur collaboration. Thank you. 1787. Face à l'échec de sa carrière d'avocat parisien, Camille Desmoulins hésite à retourner à Guise. À chacune de ses lettres, son père l'incite à revenir. Après tout, là-bas, il pourrait plaider plus facilement et se faire un nom, mais il déteste cet endroit. Camille reste à Paris. Il veut se marier, et pas avec n'importe qui, avec la fille de Camille Étienne, Laridon Duplessis. Le beau-père qui espère avoir Camille n'est autre que le premier commis du contrôle général, en poste important. Les deux hommes se connaissent. Quelques mois plus tôt, Camille était régulièrement invitée dans les appartements de Duplessis. En douce, il courtisait sa femme. Mais, en mars 1787 donc, Camille vient demander la main de Lucille, sa fille. Il est séduit par cette adolescente de 16 ans qu'il trouve sincèrement belle. Duplessis reçoit Desmoulins, mais ne sait pas comment lui annoncer son refus. Il lui dit qu'il doit consulter sa femme. En honteuse d'être à l'origine de cet amour, Madame Duplessis refuse. Son mari annonce la nouvelle dans une lettre. Camille Desmoulins n'est pas en bon parti avec la situation financière instable qui est la sienne. Il n'a même pas de logement à lui. Et puis, il y a cette différence d'âge. Desmoulins a 25 ans, celle qui courtise, 16. Lucille elle-même ne sait pas ce qu'elle pense de son séducteur. Elle l'apprécie certainement, mais ne sait pas si c'est un amour passager de jeunesse ou quelque chose de plus profond. En cachette, les deux continuent quand même à se voir avec la bénédiction de Madame Duplessis. Et pourtant, Lucille est consciente qu'elle n'a pas face à elle le plus beau garçon qu'elle puisse espérer. À vrai dire, Camille Desmoulins est même laid. Il est petit, a un visage pâle et des mèches brunes en désordre, et ne se cache pas de ce physique disgracieux.
Je ne suis point joli garçon. Tant s'en faut.
Pour faire accepter leur union auprès de Monsieur Duplessis, Camille doit devenir quelqu'un. Et cela passera peut-être par la politique. Le 8 août 1788, on annonce des états généraux pour les beaux jours de 1789. La situation financière du royaume est critique, et le roi se doit de consulter son peuple. Comme c'est l'habitude, les représentants seront issus des trois ordres qui composent la société, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Camille appartient au troisième et veut faire partie de ses représentants. Voici qu'il retourne dans la Picardie qu'il honnit, où six personnes seront élues. Aidé par le nom de son père, Camille passe les différentes étapes de sélection, mais échoue à la dernière en mars 1789. Il n'est pas élu et retourne à Paris, la tête basse. Là-bas, il ressasse les échecs de sa vie. Lui qui aimerait mener une vie bourgeoise, profiter des plaisirs de la vie, n'y arrive pas. Il ne peut pas. Lueur dans ce marasme, les états généraux débutent le 4 mai. Camille Desmoulins y assiste et il est fasciné par le spectacle qui s'offre à lui. Il ne manque pas de l'écrire à son père le soir même.
Ce fut pour moi l'un des plus beaux jours de ma vie. Il aurait fallu être un bien mauvais citoyen pour ne pas prendre part à la fête de ce jour sacré.
Dès qu'il en a l'occasion, il parcourt les trois lieux qui séparent Paris de Versailles pour assister au débat. Des fois on l'emmène, d'autres il s'y rend à pied. Le soir, il fréquente le palais royal où sont discutés les débats du jour. Mais il n'ose pas y prendre la parole. Il préfère s'exprimer au café Procope voisin, plus confidentiel. La nuit, il écrit, notamment à son père où il anticipe de 2 semaines la constitution de l'Assemblée nationale. Le 3 juin, il lui écrit.
D'ici 15 jours, le schisme éclatera. Le tiers-État se déclarera nation.
Dans le même temps, il écrit La France libre, une brochure où il s'autorise une critique vigoureuse des trois ordres. Dans la révolution qui s'annonce, il voit un moyen de s'engager politiquement, une façon aussi d'assouvir ses désirs de république. Lui ne veut plus de roi. Dans son esprit, la souveraineté ne se délègue pas, le peuple doit toujours en être dépositaire et pouvoir débattre de la politique. Dans cette conception exigeante, l'Assemblée nationale naissante ne doit pas dominer les citoyens, ce doit être l'inverse. Dans la France libre, Desmoulins évoque aussi les hôtels particuliers des nobles et les prieurés des prêtres comme récompense de la révolte qui gronde. Son texte sonne comme une harangue.
Jamais plus riche proie n'aura été offerte au vainqueur. 40 000 palais, hôtels, châteaux, les 2/5 de la valeur des biens de la France à distribuer, seront le prix de la victoire. Ceux qui se prétendent nos conquérants seront conquis à leur tour. La nation sera purgée, les étrangers, les mauvais citoyens, tous ceux qui préfèrent leur intérêt particulier au bien général, en seront exterminés.
La brochure est tellement engagée que l'imprimeur ne veut pas se risquer à la vendre, par crainte de censure. Elle est bien imprimée depuis début juillet, mais reste dans les placards jusqu'au 18. Entre-temps, un événement va chambouler les choses. Nous sommes le 12 juillet 1789 au Palais Royal.
Citoyens ! J'arrive de Versailles ! Le roi a renvoyé Necker ! Citoyens, c'est le signe ! C'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes ! Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger!
À bas la tour!
Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes! Aux armes! Aux armes! Tout Paris doit prendre les armes! Connaissons notre ennemi, mais nous devons nous reconnaître entre nous. Que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettent cette cocarde verte, verte, couleur de l'espérance. Ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire.
Cette prise de parole marque un tournant dans la vie de Camille Desmoulins. Ce jour-là, il ose enfin parler au Palais Royal. Il outrepasse son bégaiement et lance un mouvement, debout sur une chaise, en pistolet à la main. On ne sait pas ce qu'il fait après cet appel aux armes ce 12 juillet. Toujours est-il que dans la nuit suivante, nombreux sont les Parisiens à prendre les armes chez des arquebusiers. Le lendemain, Desmoulins lui-même entre aux Invalides et prend un fusil armé d'une baïonnette et deux pistolets. Le 14, la Bastille est prise. Et vous l'aurez compris, le 18, la France libre est publiée. La brochure est un succès. Desmoulins, qui a toujours été à la quête de reconnaissance, s'en félicite. Ça y est, on le reconnaît dans la rue. C'est lui qui a lancé la prise de la Bastille. Lui qui promeut la révolte dans une brochure. Il croise aux grands hommes de l'histoire. Camille Desmoulins compte bien en devenir un et va penser l'être jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, appelez-le Camille. C'est ainsi qu'il est nommé dans l'opinion publique. Une exception dans la Révolution, car tous les autres grands noms de la période seront appelés par leur nom de famille. Profitant de cet état de grâce, Desmoulins devient, pendant plusieurs semaines, secrétaire de Mirabeau, une fonction où il peut exercer sa plume et gagner de l'argent. Sa plume, Desmoulins ne va pas tarder à l'utiliser de nouveau pour lui-même. Le Palais Royal, où il s'exprimait le 12 juillet, est désormais surveillé. Il n'est plus possible de s'y exprimer. Au même moment, l'Assemblée constituante, nouvellement créée, adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le 24 août, la liberté de la presse y est inscrite. Ce qui donne des idées à Desmoulins, ici avec Danton.
Mais beaucoup plus important, elle a aussi décrété la liberté de la presse.
Je vais créer mon journal, Georges. J'en connais déjà le nom. Révolution de France et de Brabant.
Tu as raison, Camille, écris. Et c'est ce que tu fais de mieux.
J'écouterai le peuple et je dirai tout. Ses inquiétudes, ses espérances, ses joies. Mais pour le comprendre, pas pour le diriger. Sans trahir la vérité ni ma conscience.
Un mois à peine après l'inscription de la liberté de la presse dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Camille Desmoulins lance donc les révolutions de France et de Brabant. Le premier des 86 numéros, contrat le périodique, sort le 28 septembre. Un journal au ton pamphlétaire qui reprend ses idées républicaines. Pour ce journaliste patriote, à la plume enjouée et ironique, l'indépendance de la pensée doit être mise au service de la Révolution. Écrire signifie combattre. L'historien Jean Lacouture écrira d'ailleurs de lui qu'il a plus de courage que de jugement, de sensibilité que de sagacité. Dans un style clair, il n'épargne personne. Famille royale, aristocrate et modérée sont tour à tour attaqués. Même l'Assemblée constituante n'est pas exempte de reproches, notamment lorsqu'elle n'accorde le droit au suffrage universel qu'aux seuls citoyens possédant au moins un marque d'argent.
Jean-Jacques Rousseau, Corneille, Mably n'auraient pas été éligibles. Vous venez de reléguer Jésus-Christ parmi la canaille.
Le journal trouve son public. Il s'en vend 3000 exemplaires. Desmoulins devient LE journaliste de la Révolution. L'écriture assure l'essentiel de ses revenus, à raison de 10 000 livres par an, mais ses prises de position affirmées lui valent plusieurs procès en calomnie en 1790. Tout sauf une surprise, vu la teneur de certains propos.
Voilà. Tout part d'ici, et tout le monde, dans les rues,
peux lire ce que j'écris? Une heure seulement après l'impression du journal. Mon bureau.
Votre bureau personnel? Mon Dieu.
C'est très impressionnant, je vous l'accorde, monsieur Desmoulins. Mais êtes-vous obligé d'être si violent? Tenez, je vous lis. La méthode la plus pratique pour pendre les aristocrates, c'est de les accrocher aux lanternes des rues. Non. Écoutez, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
J'énonce un principe.
On n'est pas obligé de l'appliquer à la lettre.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
Février 1790. Camille Desmoulins entre au Club des Cordeliers. Là, il rejoint Georges Danton, avec qui il partage la même vision de la liberté. Les deux font la paire. Danton, l'orateur, Desmoulins, la plume. Camille a besoin de ce soutien de poids, qui est aussi son seul ami. Il le restera jusqu'à ce que la mort les sépare. Évidemment, Danton est présent à son mariage le 29 décembre. Car c'est bon, c'est fait, son union avec Lucille est autorisée par M. Duplessis. Le beau-père est conscient que sa fille ne rejoint pas là l'homme au meilleur parti, celui au plus grand charisme, ou la situation financière la plus stable. Mais il le sait, sa fille est amoureuse de Desmoulins, et l'inverse est réciproque. Surtout, Desmoulins est devenu quelqu'un par la Révolution. Au moment du mariage, Lucille a presque 21 ans, Camille 30. Un des témoins n'est autre que Robespierre. C'est d'ailleurs lui qui passe sous la nappe pour détacher la jarretière de la mariée, comme la tradition l'exige. Le couple bénéficie d'une dot de la part de la famille Duplessis qui pourra atteindre 100 000 livres selon certains. Les mariés peuvent enfin se poser, vivre ensemble, officiellement. Ils s'installent deux rue du Théâtre Français à proximité d'un bâtiment qui sera renommé plus tard Théâtre de l'Odéon. Les deux formeront un des couples iconiques de la Révolution, car ils s'aiment, car ils auront aussi un fils, un an et demi plus tard, Horace. Avec Lucille, Camille va vivre 3 ans et demi de bonheur, c'est elle qui l'accompagnera dans la suite de la Révolution. Car la Révolution continue. Quelques mois plus tôt, Camille avait trouvé ce qui deviendra la devise de la République sans s'en douter. Dans la Révolution de France et de Brabant, il écrit à propos de la fête de la Fédération du 14 juillet.
Après le serment surtout, ce fut un spectacle touchant de voir les soldats citoyens se précipiter dans les bras l'un de l'autre en se promettant liberté, égalité, fraternité.
En juin 1791, la Révolution prend un tournant. Le 20 au soir, Louis XVI quitte la capitale. Le roi n'en peut plus. Il a perdu beaucoup de son pouvoir et se retrouve quasiment assigné à résidence dans son nouveau palais des Tuileries, direction Montmédy, dans la Meuse. Mais l'affaire tourne court. Il est intercepté le lendemain à Varennes et doit revenir à Paris. Officiellement, le roi a été enlevé. Une version qui permet de garder la face. Surtout, la constituante peut continuer à envisager une monarchie constitutionnelle. Pas vraiment du goût du républicain Camille Desmoulins.
Il fallait au moins, ô imbécile, attendre que tu fusses arrivé à Bruxelles. Tu te serais réservé de dire l'excuse. On m'a enlevé. Et alors tu conserverais ta couronne.
Lui souhaite son jugement et sa déchéance pour crime de lèse-nation. Avec son club des Cordeliers, il organise un rassemblement à la Bastille le 17 juillet. Mais celui-ci est interdit. L'affaire est en close. Le président de l'Assemblée constituante, Alexandre de Lamède, conseille à Desmoulins de s'éloigner de Paris. Il s'exécute et part en campagne pour la journée. Le rassemblement se tient quand même et déménage au Champ de Mars car la Bastille est fermée. L'ambiance y est bon enfant, mais un manque de communication aboutit à une fusillade. Plusieurs dizaines de morts sont à déplorer. Les membres du Club des Cordeliers sont recherchés, comme les autres. Desmoulins est accusé de désobéissance aux lois et de révolte contre les gardes nationaux. Il arrête la rédaction de son journal et part se cacher. Il doit attendre le 14 septembre et la loi d'amnistie générale pour revenir dans la capitale. Mais le mal est fait. Cela fait 2 semaines qu'ont eu lieu les élections législatives, première du nom. Desmoulins n'a pas pu se présenter, lui qui voulait siéger dans la récente Assemblée nationale législative. Alors, le journaliste reprend la plume. Il critique la constituante nouvellement remplacée et juge son œuvre inachevée. Il marque sa désapprobation de la loi martiale en vigueur. À défaut d'être député, il veut continuer à faire passer ses idées.
Liberté, liberté, sainte déesse de Paris, régne aujourd'hui
Nous sommes en février 1792. La question de la guerre se pose, Camille Desmoulins s'y oppose. Pas question, elle sera trop longue et trop coûteuse. Les députés et autres acteurs politiques qui sont pour deviennent ses ennemis. C'est le cas de Jacques-Pierre Brissot, dont un de ses collaborateurs a la bonne idée de mettre de l'huile sur le feu. Jean-Marie Giré-Dupré, c'est son nom, s'attaque directement à Desmoulins. Il pointe ses activités d'avocat, où il a accordé une consultation à deux personnes condamnées pour tenue illicite de maison de jeu. La réponse ne se fait pas attendre. Furieux, Desmoulins publie Jacques-Pierre Brissot dévoilé. Le pamphlet est d'une extrême violence contre Brissot et ses partisans. Cette affaire fonde le conflit Girondin-Montagnard, les modérés s'opposent aux radicaux, Desmoulins, Danton et leurs proches font partie des Montagnards. La place que les deux groupes prennent dans l'hémicycle donnera lieu aux appellations futures gauche et droite. Mais revenons à la Révolution. Quelques mois plus tard, Danton donne du travail à Desmoulins. Le 12 août, il nomme ministre de la Justice et nomme Desmoulins secrétaire général. Une simple étape avant le Graal, l'Assemblée nationale législative. L'élection des députés parisiens a lieu le 6 septembre, en plein milieu de ce qui sera appelé le massacre de septembre. Desmoulins profite d'un fort élan en faveur des Montagnards pour être élu. Au second tour, il obtient 466 des 677 voix. Ça y est, il est député de la commune insurrectionnelle de Paris. Il est enfin au centre de la vie politique nationale. Mais son bégaiement se rappelle à lui. Dans l'hémicycle, il observe, encourage Danton, mais ose peu parler. Il est quand même obligé de le faire par moments, comme le 26 décembre, lors du procès de Louis XVI, où il se prononce sur le sort du roi déchu.
Un roi mort n'est pas un homme de moins. Je vote pour la mort. Trop tard peut-être pour l'honneur de la Convention nationale.
Louis XVI, redevenu Louis Capet, est guillotiné le 21 janvier 1793. La Première République est désormais le nouveau système politique. L'Assemblée nationale législative est toute puissante, mais bien instable. Fin mai, Desmoulins jette un pavé dans la mare avec Histoire secrète des Brissontins. Jacques-Pierre Brissot et les Girondins sont de nouveau pointés du doigt dans des pamphlets rageurs avec de nombreuses accusations infamantes et une dose de calomnie. Desmoulins dérape, loin de son niveau habituel. Il critique notamment la défense des esclaves et le combat pour l'abolition de l'esclavage de Brissot et avance des raisons économiques. L'historien Jules Michelet parlera d'ailleurs d'un enfant en colère qui joue avec la guillotine. Les conséquences sont quasi immédiates. Le 2 juin, les Girondins sont mis hors la loi par la Convention. Le 30 octobre, 21 d'entre eux sont condamnés à mort. Le lendemain, ils sont exécutés. Un choc pour Desmoulins qui n'a pas mesuré la portée de ses mots. Il ne souhaitait pas la mort de ses opposants. Dans une lettre à son père, il assume la responsabilité qui est la sienne, majeure, et se fait ensuite très discret pendant plusieurs semaines. Après avoir pris part à la terreur, Desmoulins veut l'arrêter. C'est pourquoi il lance le 5 décembre un nouveau journal, Le Vieux Cordelier. Il le rédige seul, mais reste influencé par Danton et relaie ses idées. Le journal prend la forme d'un long éditorial. Il est qualifié de chef-d'œuvre par les historiens. Dans ses colonnes, Camille Desmoulins prône la clémence pour 200 000 personnes. Il préconise l'établissement d'un comité de clémence et la mise en liberté immédiate des suspects. « Je préfère mourir que me museler », est sa devise. Il n'hésite d'ailleurs pas à en discuter directement avec le nouvel homme fort de la Révolution, Robespierre, qui défend ses positions.
Personne n'a été condamné sans motif.
Maxime, les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Parce qu'ils disent du bien de Mirabeau, ou parce qu'ils ont de la famille à l'étranger.
Parfois tu es naïf comme un enfant, Camille. Dois-je te rappeler que nous sommes toujours en guerre ?
Justement, nos armées ont exterminé des milliers de personnes en Vendée, un peuple entier.
Des traîtres et des rebelles.
Nous sommes en train d'étrangler la liberté dans son berceau, Maxime.
Si nous faiblissons maintenant, tout ce que nous avons construit s'effondrera comme un château de cartes.
Bah, peut-être nous n'avons rien construit. C'est juste un rêve.
Dans un climat délétère, les idées de Desmoulins font mouche. Le Vieux Cordelier est un succès. 50 000 ventes sont annoncées pour le numéro 3. Le numéro 4 est aussi une réussite. L'historien Jules Michelet dit qu'il s'en vend même jusqu'à un louis d'or. Une somme considérable pour un simple journal. D'autres historiens y verront là la tentative désespérée d'un groupe d'hommes coupés de la Révolution. Il s'agit surtout de s'opposer à un régime qui se résume de plus en plus à Robespierre, lui l'incorruptible, un nom donné par Desmoulins. Tant qu'il le peut, Robespierre défend Desmoulins et Danton. Mais il arrête, en janvier 1794, à la suite d'attaques répétées. Il laisse la voie libre à une arrestation. Celle-ci intervient le 31 mars. Desmoulins est alors en train de terminer le numéro 7 du Vieux Cordelier. Il ne sait pas pourquoi il est arrêté, mais pense que ses appels répétés à la clémence ne sont pas pour rien. Le motif d'accusation est bien plus loufoque. Il lui est reproché d'avoir voulu renverser le gouvernement au profit de la monarchie. L'incompréhension le gagne.
Après tout ce que j'ai fait pour la République, c'est là le prix que je reçois de tant de sacrifices ?
Le procès commence le 2 avril, dans une ambiance agitée. Les nombreux soutiens de Danton et Desmoulins se font entendre dans la salle. Le président et l'accusateur public sont débordés. L'accusateur public poursuit la parodie de justice et renonce à entendre de nombreux témoins. Il demande de juger sur les seules preuves écrites. Les délibérations sont plus longues qu'à l'accoutumée. Les jurés se dirigent vers un acquittement, mais le président intervient. Danton, Desmoulins, les quatre autres accusés sont finalement condamnés à mort le 5 avril. Aucun recours n'est possible. Tous sont conduits à l'échafaud l'après-midi même du jugement. Direction la place de la Révolution, future place de la Concorde. Même endroit où ont été tués Louis XVI, Marie-Antoinette et les Girondins. Avec le même bourreau, Charles-Henri Sanson. Dernier actionne son levier. C'en est fini de la vie de Camille Desmoulins. Il avait 34 ans. Sa femme Lucille suivra une semaine plus tard, accusée d'avoir voulu faire évader son mari. C'était cette même Lucille que Desmoulins avait écrit une de ses dernières lettres. C'était le 1er avril 1794, à 4 jours de sa mort.
Malgré mon supplice, je crois qu'il y a un Dieu. Mon sang effacera mes fautes, les faiblesses de l'humanité. Et ce que j'ai eu de bon, mes vertus, mon amour de la patrie, sans doute ce Dieu le récompensera. Je te reverrai dans l'Élysée. Oh, Lucille.
Vous venez d'écouter Camille Desmoulins, une certaine histoire de la Révolution française. Les discours et les écrits de Camille Desmoulins étaient lus par Adrien Lozoué. Des extraits de films proviennent de La Révolution française, Les années Lumière de Robert Enrico et de La Révolution française, Les années Terribles de Richard Efron, sorti en 1989. Camille Desmoulins y est joué par François Cluzet et Maximilien de Robespierre par André Séverine. Bernard Murat y interprète la voix française de Georges Danton. Les musiques que vous avez écoutées sont toutes antérieures ou contemporaines aux événements contés. La pochette du podcast est une œuvre de Justine Morel. En épisode imaginé, écrit, monté et réalisé par Arthur Massot.